Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs et amis auditrices. Bienvenue dans ce quatrième numéro de C'est la faute à la manette, mais aussi le tout premier de cette nouvelle année 2016. Une année qui, on l'espère, a bien démarré pour vous. Alors si c'est pas le cas ou si vous aviez simplement envie de nous écouter, on a beaucoup de choses à vous proposer cette semaine. Alors, comme l'an dernier, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est pour ça que notre ami Guillaume, aussi surnommé Luc Besson dans le milieu, pour sa grande maîtrise de la caméra qui bouge, est avec nous. Bonjour Guillaume,
comment
vas-tu?
Bonjour Julien, ça va, écoute.
Ça va ouais. Alors, dirais-tu que cette année 2016 commence bien?
Non.
Non?
Non.
D'accord, on le saura un petit peu plus tard. Pourquoi? Alors, à quoi tu joues en ce moment, Guillaume?
Alors, je joue un peu de tout. Ces temps-ci, je joue à Pokémon Ruby Omega sur 3DS. Et je joue, j'ai repris aussi un peu Castlevania Lord of Shadow 1... Et je viens de finir un jeu dont on va parler plus tard, donc ça sert à rien.
D'accord, alors que des nouveautés, effectivement,
oui,
chez toi,
tout
Guillaume.
Tout à fait.
Alors, effectivement, on a également notre PCiste de l'extrême, Tom. Salut, Tom.
Salut à tous, salut, Julien.
Alors, Tom, c'est l'homme qui critique les pixels plus vite que sa carte graphique et qui est toujours enchaîné dans les locaux de Radio Campus Tour depuis la dernière fois. Est-ce que tu tiens le coup, Tom?
Je tiens le coup, oui, effectivement. J'attends l'arrivée de l'eau depuis la dernière émission.
D'accord. Est-ce que les rats sont bons? Est-ce que tu as eu le temps d'en manger?
Alors, la fournée 2016 est plutôt goûtue. J'attends avec impatience d'en goûter un petit peu plus.
D'accord. Alors, du coup, à quoi t'as joué pendant ces moments de captivité?
Alors, pendant ma captivité, Alors, j'ai fait un mix entre faire tourner à max ma carte graphique en jouant Battlefield 4 et ne pas faire tourner ma carte graphique du tout en jouant Undertale.
D'accord. Bon, alors, quant à moi, vous l'écoutez, vous l'entendez, je suis en meilleure forme que la dernière fois où j'avais vachement mal à la gorge et où j'ai sûrement dû faire une émission horrible. Donc, je suis prêt, je suis impatient de vous montrer toutes les nouveautés qu'on a prévues pour vous cette année. Donc, en vrai, vous aurez droit cette année à des quiz, des invités, au courrier des auditeurs, à des nouvelles rubriques et plein d'autres choses qu'on vous dévoilera au fil des semaines. Alors, au programme de cette nouvelle émission, on commence toujours avec CNews, histoire de vous tenir informé du monde du jeu vidéo sans avoir à vous coltiner tous les sites d'infos, donc plus d'excuses pour ne plus être informé, effectivement. Les news vous seront présentées sur fond de musique de Darksiders 2, un jeu d'aventure à la Zelda sorti sur Xbox 360 et PS3, qui est ressorti également cette année sur PS4 et Xbox One. Hein, l'argent, c'est bien. Oui. En plus du test de cette semaine consacré au mystérieux D sur PlayStation, vous aurez droit à un quiz spécial que je garderai secret jusqu'au dernier moment.
Oh.
Donc ce sera la surprise et ce sera Tom et Guillaume qui joueront en direct. Voilà, un petit jeu. Enfin, nous revenons à une formule plus classique et on va aborder un des jeux les plus géniaux et mésestimés de la génération précédente. Donc un jeu qui aborde de vrais thèmes adultes, ce qui est plutôt rare dans le jeu vidéo, j'ai nommé Catherine. Donc on y reviendra tout à l'heure. Bien sûr, il y aura toujours des pauses musicales, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à nous subir tout le temps. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer les amis?
On est prêts.
C'est parti.
Ok, alors c'est parti, on démarre tout de suite avec la première news sur le PlayStation Plus, donc c'est moi qui vais la présenter. Alors, le PlayStation Plus, on le rappelle, c'est l'abonnement de Sony pour PS4, PS3 et PS Vita. Tous les mois, il y a quelques jeux qui sont offerts. Donc cette année, on a quelques jeux qui sont plutôt intéressants. On va commencer par les jeux PS3 qui sont Dragon Age Origins. Donc Tom, apparemment, peut en témoigner, c'est un très bon RPG.
C'est un excellent RPG de BioWare.
Voilà. On a également le non moins terrible Medal of Honor Warfighter, qui est le dernier Medal of Honor sorti. Hein. Il n'y en a pas eu depuis 2000.
Qui était plutôt sympa, moi, je trouvais.
Qui était correct. Il y avait des barbes et c'était,
ouais, c'était
beaucoup,
surtout des
beaucoup
barbes.
De barbes. C'était plutôt sympa.
Des escouades de deux.
On a également pour PS Vita Nihil Umbra, que je n'ai pas encore testé. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Du tout. Non, du tout.
Comme d'habitude, on est très informé sur la PS Vita.
Ah bah toujours, ouais, putain.
On a également Hardware Rivals sur PS4, qui est une sorte de jeu... comme le jeu avec le ballon et les voitures.
Ah oui.
Rocket League.
Rocket League, voilà. C'est une sorte de Rocket League, il me semble.
Merci à notre chroniqueur NLG.
Yeah. Et enfin, il y a l'excellent que je suis en train de refaire du coup, Grim Fandango Remastered, donc c'est un point and click de l'époque
de LucasArts.
LucasArts, voilà, qui date de 1998, qui a été ressorti en haute définition et qui est vraiment vraiment très bien, avec un doublage français excellent. Donc allez-y, tentez le coup si vous avez le PS Plus, de toute façon c'est le moment de vous lancer. Tom, tu avais une news?
Oui, j'ai même une bonne news. Alors à ceux qui connaissent la perle de l'époque, Psychonauts, il se trouve que donc, sa suite, Psychonauts 2, a reçu son crowdfunding, en fait, a réussi son objectif, et donc on y aura bien droit. Pour rappel, donc, c'était sorti à l'époque PS2, Xbox, je crois que pas GameCube, donc PS2, Xbox, si ma mémoire est bonne, et c'était un jeu d'action plateforme avec beaucoup d'éléments de guerre psychologique, en fait. On rentrait dans les cerveaux des gens pour y avoir droit à des niveaux... moitié plateforme, moitié réflexion. C'était très 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 bien et ça fait partie des gemmes méconnues, donc en attente de la suite.
D'accord. Alors, c'était, je crois, Guillaume cette fois.
Oui, tout à fait. Alors, moi, première news pour ce soir, c'est la rumeur en 2016 d'un Sonic. Donc,
comme tous les ans, on va dire.
Ouais, est-ce voilà. que d'un bon ou d'un mauvais Sonic?
Ça, c'est pas encore précisé. Je pense qu'ils espèrent en faire un bon ou alors pour l'argent. Ce serait pas étonnant non plus. Mais donc voilà, après les très bons résultats de Valkyrie Chronicles aussi, on peut rajouter que c'est la sortie de beaucoup de jeux de PC aussi de Sega qui va arriver.
Qui arrive sur PC.
C'est pas trop tôt.
Oui, d'ailleurs je crois qu'il y en a un certain paquet, beaucoup de Sonic, hein, c'est ça?
Ouais, Sonic Colors entre autres, Sonic Unleashed, Yakuza 0, Valkyria Azure Revolution, Vanquish. Resonance of Fate, Virtua Fighter 5 et Hatsune Miku.
Voilà.
Presque que du bon quoi.
Voilà,
ouais,
alors,
des plutôt bons jeux.
On va retenir surtout Vanquish, oui. Qui est vraiment un jeu exceptionnel, un beat'em all comme on n'en fait plus et qu'on n'en fera sûrement plus jamais.
Moi je vais retenir plutôt Resonance of Fate,
oui, aussi,
qui était très
ce que
tactique, même si c'était vraiment tout le temps la même chose, c'est un super jeu.
Resonance of Fate, c'est le RPG que personne n'a fini mais que tout le monde
a
commencé.
Exactement.
Exactement.
J'en suis pour ma part à une cinquantaine d'heures de jeu, je pense être à la moitié.
D'accord. Alors du coup je vais reprendre la parole et je vais vous parler d'un petit jeu indé qui est finalement assez peu connu pour l'instant, qui s'appelle Who's Your Daddy. Alors Who's Your Daddy, c'est quoi? C'est un petit jeu indé développé par Joe Williams. Alors le principe c'est très simple, c'est du 1 contre 1, donc un joueur joue le papa aimant qui essaye que son bébé aille bien, il se balade dans la maison, il trouve des cache-prises, il met les produits à Javel au-dessus de l'évier. Et l'autre joueur, du coup, joue le bébé, et le bébé est un peu bête, et le bébé essaye de se tuer. Voilà, tout simplement. Alors, quand vous êtes un bébé, l'idée, c'est de prendre une fourchette et d'essayer de la mettre dans une prise électrique. Votre but en tant que papa, c'est de sauver le bébé. Donc, un jeu très intelligent, un jeu très, très sympathique, qu'on a, à mon avis, hâte d'essayer.
La communauté, ouais. YouTube s'en est emparée à une vitesse affolante.
Affolante, ouais, effectivement. Alors, Tom, tu avais une très bonne nouvelle, bien sûr, 100%
oui,
sécurisée.
Effectivement. Alors, Square Enix, notre messie, surtout depuis ces dernières années, nous a promis juré que Final Fantasy XV sortira en 2016.
Wow.
Ça fait suite à la news de l'an dernier où promis, Final Fantasy XV sortait en 2015.
Ouais.
On a hâte d'être en décembre.
Et d'être en 2017 pour que promis sortent
en 2017.
C'est un peu comme Star Citizen, en
effectivement.
Fait. Hein. Je troll pas du tout, non.
Au moins, Star Citizen, on nous dit pas quand il sortira. C'est
ouais,
déjà ça.
C'est déjà ça.
On sait qu'il sortira pas parce qu'on nous dit pas quand il sortira.
Alors, comme il n'y a pas une émission, on ne parle pas d'Assassin's Creed, du coup, Guillaume...
Guillaume ne parle pas d'Assassin's Creed, oui. Alors, la rumeur, ma deuxième news, ce sera donc sur Assassin's Creed, sur l'annonce faite pour cette année. Pas d'Assassin's Creed cette année.
Non.
C'est plutôt une bonne chose. Et oui, donc ils veulent prendre soin, améliorer la qualité de leur jeu. Donc cette année, on n'aura pas d'Assassin's Creed pour qu'il y ait plus de temps pour le développement du prochain qui devrait se passer donc en Égypte, selon les premières rumeurs.
Voilà.
Et
ça, cool.
Avec peut-être des améliorations de gameplay, de contenu, donc faire un truc un peu à la Witcher avec du leveling, de l'XP, etc. Enfin, plein de choses.
Faire un vrai jeu.
Peut-être, ouais.
Incroyable.
Et là, Guillaume, moi qui suis actionnaire, qui ai acheté plein d'actions Ubisoft, comment je vais gagner de l'argent en 2016, du coup?
Eh ben, tu ne vas pas gagner d'argent, donc tu vends tes actions et du coup, tu fais baisser la cote de l'action Ubisoft, ce qui est en train de se passer.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu de prévu en 2016, peut-être, qui pourrait sauver l'entreprise?
Il y a The Division.
Waouh.
Ou peut-être annoncer un Watch Dogs 2.
Waouh, ce serait très bien.
Mais en attendant, Assassin's Creed en 2016 nous réserve quand même la sortie du film, donc le 21 décembre 2016.
Exactement, n'allez pas le voir.
Avec donc Michael Fassbender et Marion Cotillard, voilà.
Ok, deux bonnes raisons de ne pas du tout aller le voir, du coup.
Ou justement d'y aller.
Et donc voilà, ça conclut les news. On va digérer du coup un petit peu toutes ces informations avec une pause musicale. Game, on va écouter un thème de Zelda Majora's Mask.
Tout à fait, donc voilà, on se retrouve tout à l'heure sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission C'est la faute à la manette. A tout de suite. On est toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission C'est la faute à manette et je te rends la parole, mon cher Julien.
Oui, alors on va inaugurer une nouvelle rubrique cette semaine que j'ai appelée tout simplement le grand quiz.
Oh.
Alors, le principe est très simple, c'est vous qui allez jouer, mes amis, aujourd'hui. Donc il y aura deux quiz, deux sessions de 7 questions. Mm-hmm. Vous aurez le choix entre deux réponses ou les deux pour la réponse.
D'accord.
Réponse Burger A, réponse quiz, B donc. Ou les deux.
Okay.
Voilà, donc Guillaume, je te laisse lancer le générique.
Alors attends, merde.
Ce n'est pas la bonne musique.
Donc il y avait écrit test quiz, c'est pour ça. Alors attends, oui, c'est secret music quiz.
C'est ça, c'est ça.
C'est que tu m'as mal nommé les noms aussi.
Oh.
Tu m'aides pas, hein, franchement. Voilà.
Ça met... Alors, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas un vrai générique, c'est une musique d'anniversaire. Pourquoi ? Puisque l'un de nous ici fête son anniversaire à partir de demain.
Ah
et
bon ?
Je crois que c'est toi, Guillaume.
Ah bon ? Merde.
Incroyable.
Oui, alors ça va être un petit peu particulier. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans ces quiz-là, il y aura des cadeaux à gagner. Tu vas devoir gagner tes propres cadeaux.
Ouais.
Alors, on va commencer un petit peu comme les petits dealers de drogue ou de Nutella. Je t'offre ta première dose et le reste, tu devras le gagner, Guillaume.
C'est un anniversaire free-to-play.
Alors voici ta première dose.
Un
c'est
mug
cadeau.
Star Wars.
Un mug Star Wars.
Wow.
Alors donc, qui est-il sur ce mug Star Wars, Guillaume?
Alors il y a R2-D2, voilà.
Comme il est beau.
Un petit mug R2-D2.
Stylé.
Sympa.
Ah ouais, super.
Voilà, alors bien sûr comme on est dans C'est la faute à la manette, il faut jouer. Et donc tes prochains cadeaux tu devras les gagner, sinon c'est Tom qui va te les prendre.
Ah merde, non je ne veux pas.
Ce serait dommage, Guillaume.
Ce serait vraiment dommage, il y aura de toute façon un lot de consolation pour le perdant.
D'accord.
De toute façon c'est prévu.
Ok.
Alors, le grand quiz, ça va être très simple. Vous devrez me dire, en réponse à ces questions, s'il s'agit de l'Amiibo, de l'Ami Bolloré ou des deux. Est-ce que vous êtes prêts?
Je suis prêt.
je crois que okay, j'ai marqué des points avec Guillaume.
Je sais pas la question, je crois, en fait. C'est ça qui est horrible.
Alors, donc, pour répondre, Tom, bien sûr, tu dis ton nom.
D'accord.
Tom, c'est rapide, c'est facile. Et toi, Guillaume, tu vas dire Guy, parce que c'est plus simple à dire que Guillaume.
Vas-y.
Alors, est-ce que vous êtes prêts?
Je suis prêt.
Je suis prêt.
Ok, alors, il pèse plusieurs millions d'euros.
Tom, oui. Un Amiibo.
Oui, bien joué, bien joué. L'Amiibo, puisque l'Ami Bolloré, c'est plusieurs milliards d'euros, effectivement. Voilà. Alors, ensuite, deuxième question, vous êtes prêts? On peut l'exposer dans son salon.
Qui?
Oui.
L'Amiibo.
Oui, parce que l'Ami Bolloré, c'est que vous avez vraiment des goûts douteux si c'était le cas. Hein. Voilà. Alors, troisième question, attention, il y a peut-être un piège. Il a un intérêt.
Qui?
Tom.
Ah. Oui, Guillaume.
L'Amiibo.
Non, c'est pas ça.
Moi, je dis Tom, l'Ami Bolloré.
Non.
Bon, vous dis, avez... les deux.
Non plus.
Merde, aucun donc.
Oui, aucun des deux.
Je voulais dire ça, mais je me suis dit, c'est pas dans les réponses.
Oui,
donc,
mais il y a des pièges, tu vois.
Des pièges,
ah, d'accord.
Donc, okay. Ça te fait 2 points pour Guillaume, 1 point pour Tom pour l'instant. Alors, 4e question, il y a beaucoup de merde à l'intérieur.
Tom.
J'ai entendu Tom en premier.
L'Ami Bolloré.
Non, c'est pas ça.
Guy, les deux.
Oui, les deux. L'Amiibo est toxique. L'Amiibo est chimique, Bolloré est toxique. Voilà.
Pas mal.
Alors, 5e. Il viole les choses cultes de votre enfance en les rendant moches.
Guy.
Oui.
L'Ami Bolloré.
Non.
Tom, l'Amiibo.
Non plus.
Guy, les deux.
Oui, les deux. Bolloré a violé les guignols. Les Amiibo ont violé la finition.
C'est vrai, ça, les pauvres guignols.
Oh là là.
Alors, 6e. Il peut parfois être en laine.
Guy.
Oui.
L'Amiibo.
Oui, 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 exactement. Donc ça fait 4 points.
Et l'Ami Bolloré en hiver?
Non, l'Ami Bolloré, mais du cachemire.
C'est vrai.
Oh là là.
Alors, 7e question. Il est surnommé le petit prince du cash flow.
Oh. Guy.
Oui.
Les deux?
Non.
Ah bah, Tom, l'Ami Bolloré.
Oui, l'Ami Bolloré. L'Amiibo, c'est le petit bout de plastique du soleil levant.
Ouais, mais il fait de l'argent aussi.
Ah ouais, mais ça, c'est le surnom officiel de Bolloré.
Ok.
Donc ça fait 4 points pour toi, Tom. 3 pour
non,
toi,
pour Guillaume.
Pour toi, Guillaume. 3 points pour toi, Tom. Guillaume, tu as gagné un autre cadeau.
Waouh.
Wow, trop bien. Alors, tu as le choix.
Qu'est-ce que tu as dans ta hotte?
Qu'est-ce que j'ai dans ma hotte de Père Noël? Alors, tu as le choix entre, ça va faire du bruit, ceci. Et cela.
Alors, nos auditeurs, nous avons un paquet qui ressemble assez fortement à un jeu ou un DVD, ou un paquet qui ressemble fortement à pas
rien,
grand chose.
Rien du tout. Je te conseille le rien du tout.
Bah, je vais prendre le rien du tout alors.
Guillaume, okay. Choisit le rien du tout.
Et vas-y.
J'écoute, dans son petit emballage en forme de cible de toutes les couleurs.
Je te laisse l'ouvrir en
alors,
direct.
Je déballe en direct mon cadeau que
et
j'ai gagné.
Tu remarqueras qu'il y a des magnifiques autocollants Hello Kitty partout.
Waouh, ouais. Il y a plein de petits chats.
Parce que j'ai pensé à toi.
C'est très gentil, merci de ta part.
C'est la classe.
Oh, une casquette BB-8.
Oh,
oh.
Ça vous va, devinerez, nos chers auditeurs, de quoi Guillaume est fan.
Mais on l'a déjà dit, je crois.
C'est vrai, mais donc, pas assez.
Je vais la mettre de suite, comme ça j'aurai l'air d'un kikou fan de Star Wars que je suis.
Voilà.
Donc voilà.
Très bien.
Hop.
Très bien. Et
bon.
Ben voilà, tu es très beau. On passe tout
très
de suite du coup
de
au deuxième quiz. Alors le deuxième quiz, c'est toujours le même principe, sauf que vous devrez choisir entre Guillaume, Kylo Ren ou les deux.
D'accord.
Putain.
Kylo Ren qui est le méchant dans Star Wars 7. Hein,
voilà.
On le précise. Alors, question numéro 1. Il a une tronche d'adolescent, même une fois adulte.
Tom, oui, les
Tom.
Deux.
Oui.
Putain de merde.
Un point pour toi, Tom. Alors, deuxième. Le monde de Star Wars, c'est sa vie.
Guy, les deux.
Non.
Moi.
Oui, toi, Guillaume. Un point partout. Il porte toujours un couvre-chef pour affirmer sa personnalité.
Tom, les deux.
Oui, pas pour toi. Alors, il utilise la force pour faire sa crise d'adolescent attardée.
Guy.
Oui.
Kylo Ren.
Oui, 2 points partout. Attention, c'est serré. Alors, 5e, il est fragile.
Guy, les deux.
Oui. Il est fragile, effectivement, les deux sont fragiles. 3 points à 2. Alors, attention, là, il y a peut-être un piège. Il mange du riz Uncle Ben en solo.
Tom, Kylo Ren.
Ah non.
Ah, je n'ai pas cette preuve.
Attends, je vais peut-être vous aider. Est-ce que c'est Guillaume? Est-ce que c'est Kylo Ren? Ou est-ce que c'est Spoiler?
Guy, spoiler.
Oui, tout à fait. Pour ceux qui auront compris, hein, on va pas en dire plus que ça. Donc ça te fait combien? 4 points? 3 points?
4 points, 4 points.
4 points.
4 points. 4 à 2.
4 à 2.
Alors la dernière, si on enlève 7 lettres de son nom et qu'on les remplace par d'autres, ça fait hipster.
Guy, moi.
Non.
Putain. Les deux.
Tom.
Tom.
Les deux.
Non.
Guy. Kylo Ren.
Bah oui, c'est Kylo Ren.
Oh là là.
Là, tu as déjà quelques lettres du nom à hipster dans ton prénom.
Ah oui, c'est vrai, j'ai un H.
Les lettres.
Et un I.
Et bah du coup, tu gagnes
je suis vaincu.
Ton dernier cadeau.
Oh.
Bravo.
Wow. Bravo. Donc cadeau-là, gagné, un joli petit emballage serre de Noël, visiblement.
C'est ça.
Sur fond rouge.
Alors oui, avec encore des autocollants Hello Kitty.
Encore avec des autocollants Hello Kitty. Et du coup, Tom, merci. C'est ton lot de consolation.
Formidable.
C'est pour toi.
Qui wow. a une forme de jeu GameCube import.
Tu vas voir. Tu vas voir. Alors, je vous laisse l'ouvrir. Je laisse
d'abord la primeur à Guillaume qui a gagné.
Oui. Quel con. Mais c'est pas possible.
Alors, qu'est-ce que c'est, Guillaume?
J'ai gagné Wii Music.
Oh, qui était dans notre top, je crois, il y a peu de jeux à
non,
plusieurs.
Top de jeux vidéo, ouais. On espère que ça te fera plaisir, Guillaume.
Ah, c'est dommage, je l'ai pas dédicacé par Hideo Kojima.
Eh bah écoute, je le ferai dédicacer pour toi la prochaine fois, il n'y a pas de souci.
Alors c'est maintenant mon tour.
Alors à toi, Tom, qu'est-ce que tu as gagné?
Alors voyons voir. C'est une cartouche Super NES, je ne sais pas encore quoi, Tintin au Tibet.
Oui, tu vois.
Ce formidable jeu Infogrames.
C'est parti pour des heures d'amusement avec
des
Tintin
heures
au
de
Tibet.
Fun, de fun oh là là. Ininterrompu à mourir sur la moyenne montagne.
Voilà, exactement.
Merci Julien.
Alors,
ça
est-ce
me
que
fait
ça
plaisir.
Vous a plu du coup?
Oui.
C'était sympa le coup.
Ouais,
hein.
C'était très
ouais,
rigolo.
Ouais, c'était bien. Bon. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de temps? Oui, on a un petit peu de temps, du coup, même pour parler de 10 sur PlayStation.
Ouais, donc tu vas nous parler de. C'est aujourd'hui Julien qui fait le test de la semaine.
Ouais,
donc.
C'est à moi. Donc on va revenir sur un jeu un petit peu singulier, un petit peu étrange, nommé Dee. Donc il est sorti à une époque où le survival horror n'en est qu'à ses débuts, donc Resident Evil n'était pas encore sorti. C'était je crois en 1995 que ce jeu est sorti. À l'origine il est sorti sur 3DO, il est sorti ensuite quelques mois plus tard sur Saturn et enfin sur PlayStation. Alors c'est créé par un réalisateur qu'on ne connaît pas beaucoup qui s'appelle Kenji Eno, qui est un compositeur et designer japonais plutôt méconnu, qui œuvrera sur de rares titres tels que Dee, D2, un Superman et d'autres titres obscurs NES qui sont jamais sortis chez nous. Donc il mourra en 2013 d'une crise cardiaque, donc une fin plutôt adaptée pour un créateur de jeux d'horreur.
Hein. Ouais.
Alors Dee, ça raconte quoi? L'histoire se déroule en 97, le professeur Richter Harris, un savant et médecin émérite, pris soudain d'une folie meurtrière, finit par s'enfermer dans un hôpital avec tous les patients qui y sont et du coup en fait ses otages. Sa fille se rendant compte que son père est en train de péter les plombs, va essayer de le rejoindre et voit des cadavres un petit peu partout et elle est transportée dans un espèce de château où il se passe des choses un petit peu étranges. Voilà, c'est un petit peu les débuts du survival horror en fait, on savait pas un peu comment instaurer une ambiance, du coup elle est lancée dans un château, on ne sait pas trop pourquoi.
D'accord.
Voilà, du coup je vais vous laisser me poser quelques questions à ce propos, à moins que...
Alors moi je vais avoir une première Vas-y. Question, tu dis donc du coup que c'était les débuts du survival horror, c'est quand même sorti après Alone in the Dark.
C'est sorti après Alone in the Dark, mais c'est vraiment les débuts du jeu vidéo d'horreur japonais.
Japonais, d'accord.
Japonais.
Et 3D, non, aussi.
Il est en 3D, semi-3D, en fait, c'est à mi-chemin... En fait, quand tu déplaces le personnage, vous connaissez tous Myst autour de la table.
Oui, ouais.
Bah, ça se joue un petit peu comme ça, sauf qu'on a l'impression de diriger un Américain obèse, en fait.
D'accord.
Okay.
C'est en plan fixe, c'est assez lourd et c'est assez compliqué.
D'accord.
Alors, la chose intéressante dans ce Dee, c'est qu'il est sur 3 CD, donc on se dit que ça peut être un jeu assez long.
Ouais, bah ouais.
Le truc, c'est que tu n'as que 2 heures pour faire le jeu en entier.
Alors, comment ça se manifeste, ça?
Alors, dans ton inventaire, tu as une petite horloge.
Ah, Dead Rising.
Qui tourne, voilà, exactement, qui tourne en temps réel.
D'accord.
Et au bout des 2 heures, Laura, donc la fille du professeur, devient folle.
D'accord.
Et deux heures sans pause. Le jeu n'a pas de pause. Tu es obligé de changer de CD à peu près toutes les 40 minutes pour pouvoir passer à la suite, puisqu'il a beaucoup de cinématiques et ça prenait beaucoup de place à l'époque sur le support
CD. Ouais.
Donc c'est 2 heures ou rien. Si tu finis pas en 2 heures, tu es obligé de recommencer. Et puis voilà, tu n'as pas le choix. Donc c'est vraiment une approche différente du jeu vidéo.
Ouais.
C'est donc faut vraiment s'y lancer à fond puisque tu n'as de toute façon pas le choix. Il faut le finir. Tu n'as pas de sauvegarde aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser.
Ah,
t'as pas de sauvegarde, t'as pas de pause.
D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on peut mourir en fait dans le jeu? Imaginons que j'y joue. Est-ce que je peux tomber sur un monstre, mourir et d'avoir recommencé quand même les 2 heures?
Non.
D'accord.
Alors, tu ne peux jamais mourir dans le jeu. Tout est soit automatique, soit recommençable à l'infini.
D'accord.
La seule moyen que tu as de mourir, effectivement, c'est soit tout à la fin, soit au bout des 2 heures.
D'accord.
Voilà.
Donc il y a donc plusieurs fins, quoi.
Il y a 2 fins possibles.
D'accord.
Une fin où tu meurs, une fin où tu ne meurs pas. Je pense que c'était logique.
Oui.
C'est un jeu que je ne connaissais pas du tout avant de l'acheter. C'est un jeu qui m'a toujours intrigué. C'est une pochette un peu particulière où il y a juste un dit avec un visage à l'intérieur. Et je pense que vous l'avez sûrement vu quand vous étiez gamin. C'est une pochette un petit peu particulière qu'on reconnaît au premier coup d'œil. C'est original. C'est un auteur qui a œuvré sur des jeux un petit peu particuliers. Donc ce jeu-là, c'est une suite à ce jeu-là qui était plus ou moins sympathique. Il a également fait un jeu le premier jeu pour aveugle dans le jeu vidéo.
D'accord.
Qui est sorti sur Saturn, qui consiste en un écran noir avec que du son.
D'accord.
Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur du packaging, tu avais un petit manuel écrit entièrement en braille.
D'accord.
Et des papiers de promo pour le jeu également écrits intégralement en braille. Donc c'est un mec qu'on connaît très peu, c'est un auteur qu'on voit très peu, mais qui a finalement essayé beaucoup de choses pour le jeu vidéo qui n'ont jamais finalement été refaites.
C'était vraiment remarqué.
Qui était assez remarquable. Donc comme je disais, 3 CD, donc on change de CD à peu près toutes les 40 minutes un petit peu. Et ça a inspiré des personnes comme Shinji Mikami, je crois, pour les Resident Evil. Mm-hmm. Ça a inspiré Swery65, qui a fait Deadly Premonition, que j'adore, moi, ici. Et ça a inspiré plein d'auteurs aussi de jeux d'horreur qui viendront par la suite.
D'accord.
Donc, voilà, à découvrir. Je voulais juste vous en parler, puisque c'est sorti sur PlayStation. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une ressortie sur Dreamcast et sur 3DO. Donc pas spécialement évident à se procurer, mais si vous avez l'occasion de tomber sur même une vidéo de gameplay, finalement ça reviendra plus ou moins au même.
Les gens peuvent tester sur émulateur, je suppose.
C'est ça, bien sûr.
Et alors, est-ce que ça a bien vieilli du coup ?
Non. Malheureusement, c'était un jeu magnifique pour l'époque.
D'accord.
Le problème, c'est que maintenant le jeu est très laid. Vous savez, les premiers jeux en 3D sont maintenant absolument horribles.
Des polygones dégueux.
Et bizarrement, ça participe à son ambiance, puisque ça le rend vraiment très malsain.
D'accord.
Les personnages en 3D vraiment très moches, avec vraiment des textures assez pas terribles et tout. Et du coup, ça rend le jeu encore plus creepy qu'il ne l'était déjà.
D'accord.
Donc finalement, le jeu est meilleur maintenant si on passe à côté de la maniabilité qui est absolument infâme pour un joueur de maintenant.
Oui, d'accord. J'imagine.
Voilà, donc je le conseille.
Pour finir, tu le conseilles ?
Je le conseille, c'est vraiment 2 heures de votre vie, c'est pas non plus horrible. Au pire, vous le faites avec une soluce, parce que les énigmes sont vraiment très basiques, pas très recherchées. Mais on sent qu'il y a de l'intention, on sent qu'il y a de l'envie, on sent que voilà, il y a quelque chose de fort derrière, un message qui est fort. Et ça a été un jeu qui a été aussi assez... qui aurait dû être censuré. Alors pour la petite histoire, il avait envoyé la version finale de son jeu à l'organisme qui teste les jeux au Japon, pour dire par exemple c'est interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans.
D'accord.
Il en a envoyé une version édulcorée, donc c'est-à-dire qu'il ne contenait aucun sang, aucune scène violente, rien du tout. Donc bien sûr, il a eu l'approbation de l'organisme. On lui a renvoyé ça, et lui a fait parvenir à son éditeur sa version qui était non censurée, c'est-à-dire avec du sang, des meurtres et des choses comme ça.
D'accord, une bonne anecdote.
Voilà. Donc c'est un auteur qui croit en ses projets et qui ne laissera pas quelqu'un se mettre en travers de ce qu'il a envie de montrer. Voilà.
D'accord.
Tout simplement.
Tu le recommanderais à combien ? Parce que je ne sais pas à quel point il est rare ou cher.
Alors, il est plutôt pas évident à trouver, je dirais. Une vingtaine d'euros, c'est une bonne affaire.
D'accord,
pour
20 euros,
jeu.
Tu le recommandes. D'accord.
Déjà parce qu'avoir des jeux en plusieurs CD sur PlayStation, c'est assez compliqué à retrouver maintenant. Allez-y, ouais, s'il est complet, c'est aussi bien. 20 euros, je pense que c'est une bonne somme.
D'accord.
15 euros, c'est même une très bonne affaire. Voilà.
D'accord.
Tout simplement. Okay. Et bien, du coup, on va faire une petite pause musicale.
Ouais, bien sûr,
DM.
Oui, tout à fait. Alors, on va s'écouter une musique de l'OST de Final Fantasy X, intitulée To Zanarkand. Donc, on se retrouve juste après sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission C'est la faute à la manette. A tout de suite. On est de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission C'est la faute à la manette et je donne la parole à Tom.
Bonjour. Alors aujourd'hui dans notre dernière partie d'émission, on va parler de Catherine. Ce sera notre dossier. C'est un jeu qui nous plaît à tous les trois.
Oui, et qu'on a fait tous les trois pour une fois.
Ce qui est une première dans l'émission.
Ce qui est plutôt rare d'ailleurs, ouais.
On va commencer donc par. Je vais commencer par présenter le jeu. Donc Catherine, c'est un jeu qui est sorti en 2012 sur Xbox 360 et PS3, qui est fait par Atlus, donc qui ont fait entre autres la série Persona, qui sont responsables de l'arrivée de beaucoup de RPG japonais chez nous.
L'excellente série Persona qu'on traitera sûrement une autre fois,
un de ces quatre, enfin même Shin Megami Tensei en général. On en parlera plus tard. C'est un jeu qui a un pitch en fait assez spécial. En fait, on nous raconte, on joue donc un personnage qui s'appelle Vincent, qui a la trentaine bien tassée. Et qui donc a une copine depuis 7-8 ans, si j'ai bonne mémoire.
C'est ça.
Et leur couple donc tend à évoluer, en fait. Ils se demandent peut-être s'ils vont pas aller plus loin que juste sortir ensemble. Et il se trouve que donc ce personnage va au bar voir ses potes assez régulièrement. Et un soir, il tombe sur, alors que ses potes sont partis, une fille qui porte le même nom que sa copine, donc Catherine, à une différence d'écriture près. Il y en a une, donc notre copine... original, c'est Catherine avec un K, et donc la nouvelle, c'est Catherine avec un C. Et donc notre personnage a un gros blackout, donc cette nouvelle Catherine avec un C, on la voit furtivement, on va dire, c'est une blonde pulpeuse,
aguicheuse,
en tenue affriolante, et donc notre personnage s'endort d'avoir trop bu d'alcool et se réveille dans les bras de Catherine la nouvelle. Et donc c'est ça le pitch du jeu. Le jeu qui va nous proposer en fait deux phases de gameplay.
Ça, on va y revenir.
On va y revenir un petit peu après. Avant de parler plus avant de ces phases de gameplay, je voudrais vous demander donc à Julien et Guillaume, comment vous l'avez découvert ce jeu.
Alors Guillaume, je te laisse commencer parce que c'est toi qui l'a connu en dernier, je crois.
Alors moi, j'en avais entendu, ça remontait déjà à mon lycée, un ami qui avait beaucoup aimé, mais à l'époque il était introuvable parce qu'il n'était pas encore importé en France, donc je m'étais pas plus intéressé à l'époque. Et après, avec le temps, on a continué à en parler. J'ai vu des amis youtubeurs qui ont commencé à faire une émission sur. Qui ont parlé justement de Catherine. Après, on m'en a reparlé tout au long. Et finalement, j'ai craqué. Je l'ai trouvé à 20€ en téléchargement. Donc, j'ai fait, vas-y, je le fais. Comme ça, j'aurai mon propre avis dessus.
D'accord.
Et toi, Julien?
Alors, moi, j'en avais entendu parler donc, depuis assez longtemps, quand il était encore en développement, parce que j'étais assez fan de la série Persona. Et donc, je rongeais un peu mon frein en attendant une suite à Persona 4. Du coup, j'ai entendu parler de Catherine, qui était fait par les mêmes auteurs. Que Persona. Donc forcément, ça m'a tout de suite intéressé. C'est dans le même style d'univers. Hein.
Le même univers.
Oui, les univers se rejoignent.
Jamais dit.
Puisque apparemment, le héros du jeu est censé être un des personnages secondaires de Persona.
D'accord.
À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Donc j'en avais entendu parler. Je l'ai acheté sur Xbox à l'époque. Je l'avais même chopé en import parce que je crois que la version asiatique avait le français également. Donc j'en avais profité pour le faire. Je l'ai racheté beaucoup plus tard en version collector pour avoir un t-shirt et une...
Et des sous-bocs.
Et des, voilà, des sous-brocs et un carton de pizza.
Ah oui,
aussi,
un carton de...
Pour transporter tout ça.
Oui, effectivement.
Et c'était super classe et c'est un jeu que j'adore et on va y revenir de toute façon assez vite.
Alors pour ma part, je l'ai connu à peu près comme Julien en fait. J'attendais sa sortie puisqu'à cette époque, moi, alors j'étais pas encore vraiment très fan de la série Shin Megami Tensei, mais c'était déjà une série que j'appréciais via donc les Persona et dont j'avais hâte en fait de faire un des épisodes moi-même puisqu'en fait c'était un de mes amis qui m'y faisait jouer et j'avais pas encore en ma possession d'épisodes et donc je me suis dit en voyant Catherine tiens un jeu qui a l'air à peu près dans le même univers qu'avait l'air en tout cas dans son marketing d'avoir des thématiques assez adultes et donc je l'ai acheté pareil à sa sortie européenne donc aussi en collector. Et je ne regrette rien.
Alors, il faut savoir que le jeu est entièrement traduit en français, hein, si je me souviens bien, ce qui est plutôt rare chez Atlus.
Oui.
Atlus qui est plutôt partisan des feignants, en fait, qui ne traduisent que rarement leurs jeux.
Rarement leurs jeux.
Les personnages sont tout en anglais. Catherine était un petit peu un de leurs premiers essais à être entièrement en français.
Cela dit, il y a une traduction de très bonne facture.
Oui, en plus. Est-ce qu'on revient un petit peu, on va commencer par le gameplay du jeu.
Oui, alors le gameplay.
Qui est un peu le centre névralgique.
Le centre névralgique, effectivement. Donc le jeu, alors un petit peu comme les Persona, se divise en deux phases qui sont vraiment distinctes. Donc il y a les phases de jour, où en fait on nous présente une histoire sur laquelle on a que peu d'incidence en fait. On nous présente la journée donc, de Vincent, le jeu se passe sur une semaine, une grosse semaine. Et on nous présente sa journée, ce qui s'y passe. Il se trouve que, donc, à partir de la première nuit où qu'il passe avec Catherine, il se met à faire des rêves un petit peu étranges. Et que donc ça se répercute sur sa journée. Le soir, il va au bar avec ses potes, et donc là, on commence à avoir 2-3 dialogues avec des choix multiples, où on peut se balader dans le bar, etc., qui sera globalement le lieu où on dirige notre personnage librement. Et la nuit, on est donc dans un monde des rêves un petit peu badant, un petit peu noir et sans fin.
On pourrait dire que c'est des gros cauchemars.
Voilà, des gros cauchemars, effectivement, où en fait, on voit tout le monde comme des... On est avec d'autres gens, en fait, dans le rêve, on les voit comme des moutons, eux nous voient comme un mouton, et on doit grimper une gigantesque tour faite de blocs. Et donc, cette tour faite de blocs est une gigantesque énigme qu'on va gravir au fur et à mesure des nuits.
Oui, alors, on peut déjà préciser que le jeu n'est pas simple. C'est vraiment pas un jeu facile. Il a pourtant été, je crois, amélioré. Simplifié pour nous, Européens, par rapport au titre japonais. Hein. Mm-hmm. Donc, ça se déroule, je crois, sur 7 nuits, à peu près.
Je crois que c'est une semaine, oui.
Une semaine,
ouais.
Donc, on affronte tour à tour, finalement, tous les plus gros cauchemars que peut faire un homme de 30 ans qui vient de tromper sa copine.
Exactement.
Allant de la mariée jusqu'à la peur de l'enfant.
Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques justement très adultes. Alors, dans les rêves, ça se fait de façon, on va dire, sous-entendue. Mm-hmm. Jusqu'à l'évidente, évidemment, il y a des boss, donc un des premiers boss va être un personnage déguisé en mariée, un personnage très squelettique, presque zombie, on va dire, en mariée. Donc, c'est très très évident, jusqu'à des trucs un petit peu plus sobres, on va dire, oui. En matière de référence. Et le jour, donc, il s'avère qu'on a les répercussions des cauchemars de Vincent dans la vie réelle, en fait.
Alors, le jour se passe uniquement dans le bar.
Ouais.
Vincent discute finalement avec ses copains, peut sortir de table, aller voir les autres personnes qui sont dans le bar,
effectivement,
discuter avec elles, peut-être même jouer à un mini-jeu,
une petite réponse.
Finalement, une borne d'arcade qui ne fait que singer la même chose que tu fais la nuit.
Effectivement,
c'est exactement pareil. Tu peux aussi alors boire avec modération, bien sûr, différents types d'alcool au choix
qui vont augmenter votre rapidité, en fait, dans les puzzles.
Voilà.
Et qui te permettent d'avoir de superbes anecdotes sur différents alcools.
Voilà, vous aurez des anecdotes sur le whisky, sur le
saké, la bière et le cocktail.
Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt original comme façon de procéder. Il y a aussi des thèmes qui sont très très adultes, qui sont abordés. On y reviendra peut-être un tout petit peu après. On va en finir avec le gameplay. Alors à chaque fois que vous finissez une montée, par exemple, il se passe toujours quelque chose.
Effectivement. Alors il faut savoir que donc avancer un petit peu sur l'explication donc des puzzles en eux-mêmes, c'est pas des puzzles, c'est des puzzles action-réflexion. C'est-à-dire que vous devez grimper une tour qui est constituée de cubes. Donc au début, vous aurez que des cubes simples, puis vous aurez des cubes par exemple glissants ou des cubes sur lesquels vous pouvez pas rester, etc., etc. Mais il faut savoir que vous pouvez monter que un cube à la fois. Et donc il va falloir déplacer les cubes, jouer avec tous ces cubes pour grimper le plus possible. C'est très très addictif. Je dirais que c'est du niveau d'addiction d'un Tetris, Tetris Attack, on va dire, plutôt vraiment pour le côté vous avez pas le temps, il faut se dépêcher de monter.
Et en plus, il faut affronter en même temps les autres personnes qui sont en train de grimper la tour, parce que vous n'êtes pas le seul mouton en slip avec un oreiller sous le bras.
Voilà.
Vous avez d'autres personnes qui sont dans le même cauchemar que vous, et il faut parfois être un salaud, être un peu cruel et les pousser dans le vide pour pouvoir passer.
Pour pouvoir monter, effectivement. C'est des gameplay donc très très efficaces. C'est une bonne moitié du jeu et qui est vraiment bien faite.
Mmh. D'autres choses à rajouter sur le gameplay, peut-être, pour l'instant ?
Pas grand-chose. Il y a des vies, cela dit, donc il y a des modes de difficulté, évidemment, qui changent à la fois le nombre de blocs disponibles et donc le nombre de vies qu'on gagne quand on ramasse une vie. Et donc, c'est là la différence entre la version japonaise et européenne. Enfin, je crois qu'il y a même eu une mise à jour sur la version japonaise, mais à la base, les vies... donnait une vie. Et dans la version européenne, on a eu droit à avoir des oreillers qui donnent 3 et 5 vies dans les modes de difficulté les plus simples, histoire qu'on ait plus le temps de s'accommoder.
Ouais. Moi, j'ai fini le jeu, j'avais 99 oreillers.
Voilà, exactement. Alors, moi, à l'inverse, j'ai fait le jeu une première fois en normal, et donc j'avais 99 oreillers aussi. J'ai fait une fois, histoire d'avoir les meilleurs trophées, etc., parce que j'étais vraiment fan. J'ai fait le jeu en difficile, et c'était pas du tout la même.
Et vous avez aussi un système de karma. du coup, un système très important de karma qui apparaît ne pas avoir trop d'influence au début, mais qui en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la fin que vous obtiendrez du coup à la fin.
Effectivement, donc ça va, c'est sous la forme d'une jauge qui va dans le bleu ou dans le rouge, selon les réponses que vous donnez à la fois de jour et entre les missions, en fait, entre les escalades de la tour, on va vous demander une question qui est tout à fait rhétorique. Par exemple, c'est blanc ou noir, il y a eu un cas d'adultère dans le couple. Est-ce que c'est la
La
faute
faute
de
de
l'homme ou
l'homme ou
de
de
la
la
femme?
femme,
Voilà.
voilà.
Vous répondez, et puis on vous donne la réponse de tous les autres joueurs, de tous les autres joueurs qui ont fait le jeu.
Voilà, si vous jouez en ligne, vous aurez les résultats de
Un
toutes les
sondage, ouais.
personnes qui ont participé. Et des fois, les résultats sont assez
Les
étonnants.
résultats peuvent
Hein.
être très
Ouais.
étonnants.
Le karma, c'est également défini par ce qui peut se passer dans la journée.
Oui.
Par exemple, Catherine C, du coup, la blonde pulpeuse,
Effectivement.
peut parfois vous faire des propositions, qu'elles soient indécentes ou non. Soit par SMS, soit en vous envoyant des photos, vous avez le choix soit de l'envoyer un petit peu paître, voilà, je cherchais le mot, soit vous avez le choix ou non d'ouvrir les photos qu'elle vous propose sur
Effectivement.
son. Ça n'agit pas sur le karma. Hein.
Ça n'agit pas sur le karma.
Non.
Alors j'ai souvenir que non aussi, mais
Ah.
De toute façon, il y a toute une composante de gameplay avec l'envoi de SMS où on
Aussi, il
peut
faut
changer
rédiger
les
ses
phrases.
SMS, ouais.
Alors il faut savoir que du coup, au niveau de la façon dont on nous raconte l'histoire, donc du storytelling, il se trouve que la première moitié du jeu est vraiment centrée sur pourquoi est-ce que Vincent fait ses rêves. Parce qu'il donc quand il se réveille, il s'en rappelle pas. Mais on lui dit, et donc le joueur le sait, on lui dit que s'il meurt dans les rêves, il sera mort dans la vraie vie. Et donc, il y a tout le début du jeu, c'est une énigme en se disant comment ça se fait qu'on est dans ce rêve, parce qu'on apprend très très vite qu'on nous y a envoyé, en fait, on n'y est pas par
Mais
hasard.
ça, on va y revenir dans la deuxième
Voilà, on
partie.
y reviendra. Et donc, la première partie, c'est vraiment une énigme dans le jeu. Comment est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Et
D'accord.
ensuite, ça part sur vraiment donc des thématiques plus
Plus
adultes.
adulte, on va y revenir un petit juste après, on va s'écouter une autre chanson tirée
Oui, faisons
justement
une
de
petite pause
justement ouais,
de
de
Catherine.
l'OST de Catherine, donc qui s'appelle Also Sprach Books
Also
Brooks.
Sprouch Brooks.
Also Sprach Books.
Warwolf.
Voilà, donc on se retrouve juste après sur Radio Campus Tour 99.5 FM dans l'émission C'est la faute à Manette. À tout de suite. On est de retour sur Radio Campus Tour dans l'émission C'est la faute à Manette. On vient de s'écouter un bout de l'OST de Catherine. Et voilà, je te relaisse la parole, Julien.
Oui, alors on va continuer notre dossier sur Catherine et on va vous expliquer pourquoi Catherine, c'est bien. Alors, Catherine, c'est bien pourquoi? D'abord pour ses thèmes, pour les thèmes qui sont abordés dans Catherine, qui sont des thèmes finalement très peu utilisés dans le jeu vidéo, qui sont
Voire
des...
pas.
voire pas du tout, effectivement, Tom. On parle de la relation de couple de manière vraiment approfondie. On vous met vraiment dans la peau d'un trentenaire type qui vivrait depuis assez longtemps avec sa copine. qui, comme beaucoup d'hommes de cet âge-là, ne sait pas s'il doit se poser ou continuer sa vie d'adolescent, qui a du mal, finalement, c'est ça, hein, il a du mal à s'engager, notre héros.
Oui, donc, oui, ouais, tout à fait. C'est un héros qui est en permanence, donc, on va dire, tiraillé entre donc Catherine avec un K et Catherine avec un C au fur et à mesure du jeu. Donc ça va surtout se ressentir sur beaucoup de cinématiques. Et donc les choix qu'on fait en fait vont permettre de le diriger vers une des deux filles et, ou aucune des deux justement.
C'est ça.
Ou les deux. Il y a beaucoup de fins en fait au jeu.
Donc finalement on peut dire que Vincent il hésite entre la maturité et la finalement l'éclate. Enfin
oui,
finalement
c'est ça, globalement, c'est ça.
Revenir à l'époque où il pouvait encore s'éclater, où il n'était pas enchaîné par quelque chose. Et c'est quelque chose qui se ressent beaucoup au niveau des rêves de Vincent,
oui.
Puisque ça représente un petit peu toutes les peurs que peut avoir un homme à cet âge-là.
Mm-hmm.
On parle notamment du mariage, on en avait parlé tout à l'heure, le mariage ça peut être effrayant. On parle des enfants. On a d'ailleurs un boss très effrayant
oui.
qui est en forme de
bébé là,
qui est absolument horrible. Il y avait quoi d'autre comme boss ?
Comme boss, je suppose qu'on ne devrait pas trop spoiler en parlant.
On peut un petit peu quand même.
Sachez, le thème, le mariage, les enfants.
Voilà, surtout mariage, enfant, adultère, évidemment.
Adultère, oui, effectivement.
Il y a aussi, en fait, de toute façon, un thème de la poursuite en général, puisque tous les boss nous poursuivent, en fait.
Mm-hmm.
Et donc, que Vincent essaye d'échapper à ses problèmes en s'enfuyant. C'est, et non pas en ça. Se confrontant à eux.
Et donc, comme on disait, on peut le fait de mourir dans votre rêve vous fera mourir en vrai.
C'est ça.
C'est ça. C'est un petit peu le centre de l'affaire, puisque tous les soirs, il va revenir au bar, il va voir que d'autres personnes sont mortes dans leur sommeil, qui sont pour la plupart des hommes qui ont fait des adultères.
C'est ça.
Donc, il va commencer à s'inquiéter un petit peu pour lui et pour ce qui peut se passer pour lui. Et est-ce qu'on spoil un petit peu plus la fin ?
Non, alors non, je propose pas. Qu'on parle pas trop de la fin. On peut tout à fait dire, enfin néanmoins dire que on peut de toute façon sauver la plupart
oui.
des personnages qu'on croise. Les choix sont un petit peu cryptiques de temps en temps pour les sauver.
On peut dire aussi qu'on peut perdre nos amis.
Oui,
qui
on
sont
peut
au
même
bar.
Perdre nos amis.
Oui, certains de vos amis au bar peuvent disparaître parce que vous aurez pas assez discuté avec eux, vous aurez pas essayé de résoudre leurs problèmes.
Leur conflit, oui.
Voilà, donc vous pouvez.
Ouais, y a vachement d'interactions sociales justement pour essayer de sauver le plus de moutons au final. Enfin, ça a des impacts quand tu parles dans les moutons dans la vie réelle, mais en même temps le contraire, c'est-à-dire que quand tu parles aux gens dans le bar, ça a un impact après dans le rêve sur
oui.
les moutons que tu croises.
Tout à fait. Tu peux même croiser d'ailleurs tes amis, oui, directement dans,
tu croises
dans le cauchemar.
Deux de tes meilleurs amis, je
ouais,
crois.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a que le petit jeune que tu ne vois pas.
J'ai été obligé de m'en débarrasser, moi. Je me souviens très bien.
Alors, pour parler un petit peu donc, des fins sans spoiler, il y en a 6 dans le jeu. On peut compter une 7e bonus dont je vous parlerai peut-être un petit peu après. Il faut savoir qu'en fait, vous aurez la fin que vous méritez, globalement. Si vous voulez que Catherine, ce soit une histoire sérieuse, vous aurez une fin sérieuse. Si vous voulez que ce soit une histoire délirante, vous aurez une fin délirante. Voilà, ça, c'est votre choix. Si vous voulez quelque chose de terre-à-terre, une happy ending, quelque chose de fou, plutôt quelque chose de triste, le jeu va en fait lui-même se charger de vous donner la fin de vos choix en fait et vous donnera donc toutes les clés scénaristiques sur son dernier acte.
Alors puisqu'on parle de ça messieurs, quelle fin vous avez eu ? Est-ce que vous avez été plutôt gentil ? Est-ce que vous êtes parti avec votre copine de toujours ou est-ce que vous avez tenté l'aventure avec une belle blonde ?
Alors je vais te laisser commencer Guillaume.
Bah écoute moi je suis resté avec la Catherine avec un
K.
Du coup. Voilà donc karma bleu donc c'est-à-dire karma du bon côté entre guillemets avec
tu es le gentil.
Voilà,
tu es le mignon.
Étonnamment.
Alors Tom, j'ai l'impression que c'est pas du tout pareil pour toi, je le vois à ton regard,
alors,
je sais pas pourquoi.
Alors malheureusement, c'est la même chose que Guillaume, j'ai eu donc la même fin que lui où j'ai eu plutôt une fin tranquille. Néanmoins mon grand jeu on va dire justement c'est de faire jouer ce jeu à mes amis et j'ai donc pu voir d'autres fins. C'est d'ailleurs là où j'ai pu avoir un petit peu de critiques en fait sur le jeu, les rares critiques. Il se trouve que donc une de mes amies le fait en ce moment et m'a fait remarquer que le jeu était quand même un petit peu centré sur les hommes, c'est-à-dire que c'est un
oui.
petit peu plus dur de se mettre dans la peau d'une femme vu que donc justement toutes les thématiques sont centrées autour de l'homme.
Pour les hommes, ça marche très bien d'ailleurs.
Voilà, en tout cas, pour les hommes, c'est parfait. Pour les hommes que nous sommes.
Alors pour moi, donc on est trois canards hein, finalement. Moi aussi, j'ai eu la fin bleue. J'ai été plutôt raisonnable, même si moi j'aurais préféré partir avec la serveuse,
oui.
qui était quand même bien plus sympa que tout ce qu'on pouvait nous proposer.
Tu veux dire le serveur,
la serveuse, on ne sait pas trop.
Bon, point.
Non, c'est... t'aurais préféré aussi partir avec
Erika, pas spécialement, non. Genre, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé.
Ouais. Une bonne pote, en fait.
Que, voilà, mais c'est un pote d'enfance dans le jeu. La plupart des personnages sont très bien écrits. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé comme les autres. Mais je me suis contenté, en fait. Je me suis vraiment laissé guider par le jeu. Et j'ai pas eu réellement envie... je me suis dit à aucun moment j'aimerais bien plutôt par exemple aller avec un homme, sait-on jamais, ou un autre personnage qu'on me propose pas. Je trouvais que le jeu suffisamment bien avec juste deux personnages.
À la limite, ce qu'on pourrait dire, c'est que moi j'ai trouvé Catherine avec un K, donc votre copine, un petit peu trop
terre à terre,
un peu trop chiante en fait. Hein, oui. On peut le dire comme ça. C'est vraiment le stéréotype de la copine qui veut absolument vieillir et fonder vraiment quelque chose de solide et qui part jamais dans les délires quoi finalement.
Oui, dans les extrêmes.
Et au contraire, j'ai trouvé Catherine C un petit peu trop volage et un petit peu trop...
Il n'y avait pas un juste équilibre.
Il n'y avait pas de juste équilibre. Par exemple, si Catherine K avait eu un petit peu plus de un petit grain de folie, je pense que ce serait encore mieux passé.
Alors, moi, je trouve que c'est bien comme ça, justement, parce que ça nous force à faire... ça force le joueur, en tout cas, à réellement choisir, on va dire, ce qu'il préfère ou justement le moindre de mal, on va dire.
Quel extrême il préfère, en fait.
Est-ce qu'il préfère un extrême vraiment calme ou un extrême vraiment fou, quoi.
Mais on aurait pu influencer l'une ou l'autre pour l'amener dans la direction qu'on aurait préférée.
C'est vrai.
Ça, par exemple, ça aurait été un petit peu sympa, je pense.
Tout à fait.
Alors, tu m'avais parlé juste pendant la pause des musiques. Tu voulais nous en dire quelques mots ?
Oui, alors les musiques sont formidables. Hein, comme on
vous
est
l'avez
habitué,
entendu, oui, c'est très très sympa.
Comme on est habitué dans la série. Les musiques donc, de jour sont tous un petit peu jazz ou soul, dans cette veine-là. Les musiques de nuit, elles, sont des musiques classiques réorchestrées, que vous reconnaîtrez ou pas. C'est des musiques très connues, donc vous n'aurez probablement pas le titre, mais vous les reconnaîtrez à l'air. C'est une OST égale, c'est ça que j'ai trouvé agréable, c'est qu'il n'y a pas de musique vraiment énervante, il n'y a pas de musique qui sort du lot comme étant mauvaise, on va dire. Je vous la recommande, ça s'écoute très très bien.
D'accord. Est-ce qu'il y en a une que tu as retenue en particulier ?
Une en particulier, j'aime beaucoup la musique d'introduction qui s'appelle It's a Golden Show.
D'accord.
Qui commence plutôt sur des thèmes, un thème un petit peu, on va dire, religieux presque. Puis part sur un petit jazz à la trompette que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, que je m'écoute une fois de temps en temps, qui me met la pêche, on va dire.
D'accord. Alors, je vais vous poser une question un peu particulière. Si ça vous arrivait vraiment dans la vraie vie, tout ça ? Alors, qu'est-ce que vous auriez choisi ? Parce que là, vous êtes devant un jeu vidéo, là, vous faites les malins. Vous choisissez des réponses comme ça, en disant « Ouais, je suis un mec super, je suis trop bien. » Mais qu'est-ce que vous auriez fait en vrai ?
En vrai, je sais pas. Je pense que j'aurais gardé le silence, je suppose. Je suis du genre à estimer qu'il y a des choses qu'il faut dire, mais qu'il y a certaines choses qui doivent rester sous silence.
Tu t'aurais été mesuré.
Voilà, je pense que j'aurais été plutôt dans les fins du milieu.
D'accord, entre les deux.
Alors, effectivement.
Guillaume, c'est une question vachement facile pour toi, du coup.
Ah bah oui, totalement. Non, moi je pense pas que je sois du genre secret. Moi, j'aurais pas déjà. J'aurais, je pense, par rapport au personnage du jeu, pas attendu une semaine, tu vois, pour en parler à sa copine. Je pense que j'aurais essayé d'y réfléchir beaucoup plus tôt que d'attendre que les choses qui subissent, quoi, en fait, le personnage subit pendant toute une semaine. Et c'est peut-être pas la meilleure des solutions.
D'accord. Bah, moi, généralement, quand je vais boire au bar, c'est généralement avec des copains, et mes copains, ils me laissent pas partir avec la première fille, la première femme qui n'est pas la mienne. Donc, je pense que de ce côté-là, ses amis ont peut-être fait une erreur.
Et jamais une aussi grosse cuite que lui, personnellement.
Néanmoins, je suppose qu'on a tous, en tout cas pour notre première fois dans le jeu, fait les choix qu'on aurait fait dans la vraie vie. Voilà, donc c'est de toute façon quelque chose que le jeu fait bien, en fait, c'est de se mettre à la place, en fait, de nous mettre à la place du personnage. Voilà, peu importe notre âge, on a tous les trois des âges relativement différents, et le jeu se charge bien, en fait, de nous mettre à la place de son héros.
Alors, je voulais revenir juste vite fait sur le marketing du jeu qui est un petit peu
maladroit.
Comment dis-je ? J'ai pas envie d'utiliser
cabotin.
Ce terme. Cabotin, voilà, c'est ça. Alors, ce que vous pouvez voir en fait sur la pochette du jeu, c'est... Alors, vous avez le choix parce que la jaquette est réversible du coup sur Xbox et sur PS3. Vous avez soit Catherine avec un C, avec un décolleté...
dont Vincent essaye de sortir.
Dont Vincent essaye de s'échapper. Soit l'autre côté un petit peu plus soft. Mais ce jeu a surtout été vendu sur son côté aguicheur et plutôt...
voire érotique.
Érotique et provocateur. Ce qui qui n'est en réalité pas du tout. Et je pense que les jeux qui l'ont, les gens qui l'ont acheté pour ça ont, à mon avis, été plutôt déçus.
Plutôt déçus. Alors, je me demande si justement quelqu'un qui l'achète pour ça et se retrouve justement avec un jeu qui est plutôt moralisateur sur la question du sexe, en fait. Je pense que justement ça a pu être une bonne surprise pour certains. Néanmoins, je trouve que ça reste un pas de travers, on va dire, sur ce jeu.
Il faut dire que c'est un jeu qui s'est très peu vendu. J'ai vérifié en tout cas tout à l'heure, le jeu s'est finalement très peu vendu, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est loin d'être le succès d'un Persona, par exemple, qui a une aura absolument incroyable. C'est un jeu qui est assez dur à trouver, même maintenant. Un peu trop cher, ce qui prouve qu'il est justement pas très vendu. Moins c'est vendu, plus c'est cher, justement, c'est tout le paradoxe. Est-ce que du coup c'est un jeu que vous recommanderiez à qui déjà? À qui on le recommande?
À tout le monde, moi, à tout le monde, sans exception.
Il faut quand même un âge minimum, enfin.
Oui, effectivement.
Il faut quand même un âge minimum.
En termes de maturité, je te parle.
Il faut déjà être conscient de certaines choses. Il faut être en couple, c'est un plus.
Oui,
pour jouer à ce jeu, vraiment, hein, c'est vraiment un plus. Être un homme, c'est un plus aussi pour ce jeu.
C'est un plus, malheureusement, là, pour le coup.
Malheureusement. Et du coup, alors, une petite note sur...
Une note sur 20. Alors, moi, personnellement, ça fait partie, je dirais, de mon top 10 de la génération précédente.
D'accord.
Au moins pour le fait que ce soit le seul jeu de puzzle, en fait. Peggle, si tu nous entends.
C'est trop bien, Peggle.
Peggle, c'est trop bien, mais c'est le seul vrai jeu de puzzle scénarisé, qui plus est.
C'est vrai.
De la génération. Je lui mettrais un bon 17.
Puzzle Quest.
Ah, moi, j'aurais dit 16-17, donc je te rejoins.
17 pour toi aussi?
16-17, 16,5, allez.
D'accord, et écoute, moi il va y copier d'un petit 18.
Un petit 18.
Parce que j'aime beaucoup ce jeu et je vous le recommande.
Si on devait résumer un petit peu ses défauts, on pourrait dire une durée de vie.
Une durée de vie, elle est d'une vingtaine d'heures?
Une dizaine.
C'est pour ça.
Alors moi, je crois que j'ai mis 12 ou 15. Néanmoins, donc ça va dépendre de votre niveau de difficulté, principalement.
Surtout,
c'est un jeu qui a beaucoup de rejouabilité, en fait. On a envie de le refaire ou, comme moi, de le faire jouer à ses amis pour connaître leur psyché profonde.
Je voulais vous parler juste vite fait de l'édition collector japonaise qui est un summum du bon goût.
Est-ce que d'abord tu peux nous parler vraiment du contenu de l'européenne? On l'avait dit.
Alors l'européenne, c'est un t-shirt, un poster, une boîte en carton pizza et des dessous de verre.
Alors une boîte de tapas, en fait, pour être précis.
Non, c'est une boîte de pizza.
Alors je croyais que la boîte de pizza c'était la japonaise.
Non, je l'ai chez moi, je te jure, c'est une boîte de pizza. Et la version japonaise, c'est un petit peu tout ça, sauf qu'il y a un oreiller aux couleurs de Catherine.
Effectivement.
Magnifique. Je crois qu'il y a un repose-poignet avec les...
Alors, il y a surtout un caleçon.
Un caleçon,
il y a
il y a un caleçon à fleurs.
Le caleçon rose.
Exactement.
Ce fameux caleçon donc blanc à cœur rose.
À cœur rose, voilà.
Voilà. Une édition du mauvais goût. et donc, dans sa boîte de pizza, elle aussi.
D'accord. Et du coup, je crois qu'il est l'heure de se quitter.
Oui.
C'était déjà la quatrième émission. Ça passe très, très vite.
Ouais.
Très très vite. Du coup, on se quitte sur une musique hommage.
Ouais, c'est ça. Donc, à la triste mort de David Bowie le 10 janvier 2016, on va écouter du coup The Man Who Sold the World, parce que elle fait partie aussi des jeux vidéo, parce qu'elle est apparue dans l'introduction du Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Donc voilà, on s'écoute The Man Who Sold the World. À bientôt sur Radio Campus dans C'est la faute à la manette.
Ciao.
Et bonne soirée.
À la prochaine.
Bonne soirée.
We passed up on the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. I know, not me. I never lost control. Your face took place with the man who sold the world. Thank you.
shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.